Clé en main de Mars sur Radio Grand Ciel, RGC, Alain Roumastan, bonjour. Aujourd'hui, je vais pour vous à la rencontre de Nicole Tarlet, fille, femme, mère de marin. Une belle rencontre qui, j'espère, va vous permettre de pénétrer dans l'univers des marins-pêcheurs, au contact d'une femme au parcours édifiant. Renaud, Marc Augeret, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Trio, Charles Trenet, Matt Mata, Georges Moustaki, Hugo Offray, nous accompagneront pendant cette heure.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « sois prudent ». La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris. Et mon bateau aussi. Il est fier mon navire. Il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Les Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Prends la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Bien, Nicole Tarlet, merci de me recevoir chez vous pour parler de votre vie, de la vie de marins, de matelots. Et ben, on va commencer par le début. Hein. Votre enfance, dans un premier temps.
Alors, ben, je suis née au Tréport, d'une famille de marins-pêcheurs. Mon père était marin-pêcheur, mon grand-père, et après la suite. Tout le monde. ben après, ma mère travaillait pas parce qu'elle s'occupait du poisson et de nous. Et puis, ben, mon père avait un tout petit bateau. Alors la pêche, ben, l'hiver, il n'y avait rien. On n'avait pas grand-chose à manger. Heureusement, on avait la grand-mère qui était là. C'était elle qui amenait la viande. Voilà. Après, au printemps, c'était un petit peu mieux. On mangeait mieux. Et puis, ben, quoi d'autre dire, ben, on n'avait rien de spécial à cette époque-là. On avait juste un poste, pas de télé, pas rien. On faisait rentrer la tonne de charbon pour prévoir l'hiver, les pommes de terre. Et on mangeait beaucoup d'hareng salé, hareng mariné. Et puis, ben, on les mangeait à tous les sauces. Après, on avait le droit un petit peu mieux quand la pêche était meilleure.
Vous étiez dans quelle ville ?
On était au Tréport.
Au Tréport.
Au Tréport, la région des Trois Villes Sœurs, Tréport, Mers, la ville 2. Mais nous, on habitait le Tréport. Le port, c'est au Tréport, n'importe comment. Il n'y a pas de port à la ville 2. Voilà. Après, il y a Mers, c'est une belle plage aussi, mais c'est pas maritime. Alors, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
Bah, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez, bon. Les enfants vont à l'école.
Oui.
Comment ça s'est passé pour vous ?
Ben nous, on allait à l'école, moi puis mon frère. On est à 7 ans de différence. Moi, bon, ben forcément, j'étais la plus grande. J'ai aidé mes parents très tôt à travailler parce que l'hiver, mon père allait aux cordes. C'est-à-dire que c'est une corde avec des hameçons dessus. Et il fallait que l'on mette du verre. Du verre que mon père allait faire sur la plage et qu'on mettait sur les hameçons pour pouvoir aller à la mer le lendemain. Alors ça prenait beaucoup de temps. À partir de 7 ou 8 ans, ben, j'ai été mon père. On était 3 ou 4 à faire ça, chacun notre caisse de 100 hameçons. Alors c'est-à-dire qu'il y avait mon père, ma grand-mère et puis les deux matelots que mon père avait pour pouvoir faire tout ça et le lendemain recommencer. Quand il y avait mauvais temps, ben, il fallait redémonter tout ce qu'on avait fait en attendant le beau temps pour aller refaire du neuf, pour remettre à la mer. Et j'ai porté ben, du poisson tout le temps. Quoi. J'ai toujours été dans les bottes de mon père. J'ai toujours suivi mon père partout. Et puis, après, ben, j'ai continué jusqu'à mon certificat d'études. Je travaillais un petit peu l'été chez un magasin où on vendait des foulards, des pulls, tout ça. Et j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 18 ans que je me marie. Mais à 14 ans, j'ai été partie une année à l'école, on appelait ça l'école des bonnes sœurs, pour apprendre à coudre et tout ça. Et j'ai arrêté à 15 ans, c'est-à-dire que j'ai été qu'une année, parce que mon père, il a eu un problème avec son moteur. Pas de moteur, on peut pas aller en mer, c'est pas possible. Et ben, pour pouvoir qu'il aille son moteur, ben, je suis allée voir ma patronne sans rien dire. J'ai demandé si elle voulait me garder. Et elle m'a pris à 15 ans en travaillant pour tout le temps. Jusqu'à temps que je me marie, j'ai aidé pour pouvoir que mes parents prennent le moteur avec l'argent que j'allais ramener.
Ferme tes jolis yeux, bercés par le vent, au large des îles bleues, d'étoile en étoile, on suivra le chemin jusqu'à la rosée du petit matin. Viens, on va faire un tour vers la brume, des esprits danses au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson de la mer. Je t'ai vu dans mon rêve au pied du grand phare. C'était comme avant, avant le départ. Des châteaux de sable, des berceaux dans les arbres. Ne pleure pas, on se retrouvera. Viens, on va faire un tour à travers la brume, là où les esprits dansent au clair de lune et au soleil levant. Entre ciel et terre, on chantera tout bas la chanson.
Votre adolescence, vous l'avez toujours passée au Tréport aussi?
Ah, toujours au Tréport. Hein, ah oui, moi, j'ai jamais
lieu de vie,
jamais de vacances, jamais rien. Jusqu'à, j'ai jamais été en vacances. Devant. On pouvait pas. On n'avait pas les moyens pour. Et puis après, ben, j'ai connu Bernard quand même entre deux. Et puis on s'est mariés en 1964. Et on a eu Philippe. Voilà. Comme ça que la jeunesse s'est passée.
Parlez-nous un petit peu de Bernard. Justement,
ben quoi, Bernard,
le mari, ses activités.
Bernard, ben, il est pareil, il est issu d'un père matelot. C'est-à-dire que mon beau-père, il travaillait à la CNCF. Il a été prisonnier de guerre et quand il est revenu, son médecin, il demeurait à côté d'Amiens, à Beauvais. Le médecin lui a dit qu'il fallait qu'il aille au bord de la mer. Alors il est venu à bord de la mer pour apprendre le métier de marin-pêcheur. Et mon père, il a connu mon père, et c'est beaucoup mon père qui l'a mis un petit peu... il lui a expliqué comment il fallait faire. Et il a fait un bateau. Alors, ben, j'ai connu Bernard comme ça, parce que les pères, ensemble, ça discutait. Et on est devenus amis, forcément. Et puis, le beau-père, eh ben, il a fait des bêtises. Alors après, c'est cassé, mais Bernard l'a toujours resté marin. Voilà. Après, il a eu son bateau à lui en 1967, qu'on a fait construire. Mais ça a toujours été la marine.
Toujours.
Toujours.
Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les... En gros, même si c'est difficile de voir ça de près, quelles sont les grandes étapes de sa vie professionnelle à lui?
Ben Bernard, il est à l'école. Comme ça ne lui plaisait pas, il est sorti à 14 ans sans rien, parce que ça ne lui plaisait pas du tout. Il n'a pas continué. Son père lui a dit, si ça ne te plaît pas, tu restes là. Et puis il a mis ses bottes et puis il est parti à la pêche avec son père, avec un marin pêcheur. Et puis c'était pareil que chez nous, il n'avait pas grand-chose à manger l'hiver. Voilà. On était tous les deux du même côté de la barre, quoi. Mmh. On a été élevés pareil. Mais moi, j'étais quand même mieux parce que jusqu'à 7 ans, j'étais fille unique, jusqu'à l'arrivée de mon frère. Mais j'avais une grand-mère qui me gâtait beaucoup.
Important, alors, le rôle des grand-mères.
Alors la grand-mère, il y a quelques années, hein. Voilà, la grand-mère, elle a... Comment que je vous dis, si elle voyait qu'il manquait quelque chose, elle m'a toujours habillée, tout, pour que je manque de rien. Et ça, et elle a continué avec mes enfants après.
C'est important au niveau matériel, mais c'est aussi important au niveau sentimental, les grand-mères.
Ah oui, ma grand-mère, quand elle est partie,
ça jouait énormément.
J'ai vraiment vers du gros. Mm-hmm.
Sur les enfants de l'époque.
De l'époque, oui. Ça, elle était vraiment gentille. Mais enfin, moi, j'étais un petit peu la gâtée, mais les autres, ils étaient pareils. Et mon petit frère, mon oncle, il avait un fils, c'est pareil. Et si elle faisait à l'un, elle faisait à l'autre. Hein. Elle ne faisait pas de détails. Mm-hmm. Avec ma petite sœur, la dernière, là, c'était pareil. Bon, elle ne savait pas la prendre, mais elle en a eu quand même.
Il y avait de la justice entre, ouais, entre les enfants.
Si elle donnait quelque chose à l'un, mmh, elle donnait à l'autre. Bon, j'étais peut-être un petit peu mieux servie, mmh, mais elle ne faisait pas de fait. Voilà.
Il y avait une aide, disons, égalitaire.
Ah oui, égalitaire, et vraiment, elle voyait quand on manquait de quelque chose. Mmh. Elle ne disait rien, elle venait voir, elle venait boire son petit café, puis mmh, elle repartait, puis tout d'un coup, on la voyait revenir, elle avait un grand fichu noir. Vous savez ce que c'est qu'un fichu,
oui,
un,
oui,
châle.
Tout à fait, oui.
Et puis à cacher dessous, puis à venir comme ça, et à laisser ce qu'il y avait dessous. Mmh. Et sans rien demander.
Une solidarité efficace.
Ouais, c'était comme ça. Mmh. Voilà.
Votre mari, est propriétaire d'un bateau.
Oui.
Est-ce qu'il a eu, pendant toute sa vie professionnelle, ce bateau? Et je ne pense pas que la vie a été un long fleuve tranquille. Quelles ont été les difficultés qu'il a pu rencontrer et comment vous les avez résolues en couple, puisque vous étiez avec lui dans la main?
On a fait construire un bateau en 1967, c'est-à-dire en 68-67, parce que... Non, 66-67... C'est 68, ça paraît. Il l'a eu pour le 18 juillet 1967. Il l'a mis à l'eau. Il est rentré dans le port du Tréport le 18 juillet. Et on a fait le baptême après, mais pour pouvoir aller faire son bateau, il n'avait qu'une mobilette. Et il faisait le Tréport Saint-Valery-sur-Somme tous les jours, mmh, avec sa mobilette.
Ce qui est une petite distance.
Voilà. Hein, ah oui, il y a un bon... Je ne sais pas combien il y a de kilomètres, mais il y a un pont qui... Et pas de téléphone pour prévenir en cas de retard, ni rien du tout. Voilà. Alors après, il allait à la mer avec un marin. Et puis, on faisait la petite pêche côtière, comme mon père, il avait fait avant, puis son père. Et on l'a gardé jusqu'en 1977. Parce que comme Philippe, il sortait notre... Comme Philippe, il sortait de l'école des mousses et qu'il voulait aller à la mer, on a voulu changer de bateau pour prendre un petit peu plus grand. Mm-hmm. Parce qu'il y avait Philippe, notre premier fils, et puis il y aurait eu Dominique qui voulait y aller, le deuxième garçon qu'on a eu en 1967. Voilà. On a eu le bateau en même temps que le bébé.
Saint-Vincent.
c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laisser tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Voyez passer ces paris petits enfants, tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Caruquera, Calédonie, Ouessant, vierge des mers, tout seul, tout le temps. Vous, c'est l'eau qui vous sépare.
Vous disiez qu'il sortait de l'école des Mousses. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment se passaient les études à cette école?
Ah ben, c'est
qu'est-ce qu'on apprenait aux jeunes futurs marins?
Bah, c'est-à-dire que l'école des Mousses, c'est l'école d'apprentissage maritime. Mm-hmm. Alors, bah, il y avait de comment d'écriture, il y avait édité, il y avait de calcul, beaucoup. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de ce qui se passe à bord d'un bateau. Ils étaient pareils que s'ils embarquaient. Et le lundi matin, ils avaient du pain frais, ils avaient les vitailles jusque pour la semaine. Mm-hmm. Les vitailles, c'est ce qu'ils mangent. Mm-hmm. Alors, ils étaient confinés comme si c'était dans un bateau qu'ils allaient prendre après à la sortie de l'école. Ils mangeaient du pain frais le lundi et puis vendredi, c'était du pain dur, quoi, comme ça se passe à bord d'un bateau. Mm-hmm. Et puis il a appris tout ce qu'il avait besoin. Il a appris pour les moteurs, il a appris à faire des nœuds, ça c'est normal, à faire des chaluts, à faire tout ce qu'un marin doit savoir faire. En plus, apprendre à bien nager. Ils ont été plongés avec une combinaison régulée au large de Boulogne à la fin de leur étude pour avoir des brevets qui disaient qu'ils savaient vraiment bien nager. Ils avaient des notes pour ça. Mm-hmm. Et puis, il est sorti qu'il avait bien travaillé, quoi. Il était troisième de son canot.
Il était prêt à l'emploi.
Il était prêt à l'emploi. Mm-hmm. Et chose qu'il n'a jamais quittée. Mm-hmm. Il a toujours été dans la marine. Mm-hmm. Voilà.
Ce bateau dont on parlait pour votre mari, il l'a gardé toute sa vie ou...
Non, il a confiance en Dieu.
Aléas. Quels aléas?
Confiance en Dieu, on l'a vendu en 1976, comme mm-hmm. je disais. Non, on l'a vendu pour prendre un plus gros. Mm-hmm. Par contre, quand on a acheté le Grizzly, on a eu des difficultés parce que il y a eu la grève de 80 entre deux. Mm-hmm. Et en 78, la période difficile, parce qu'on a été un mois complet à faire grève. Et déjà, parce qu'on ne vendait pas bien le poisson et qu'on n'arrivait plus à payer notre... On n'était pas tout seul, on était tous dans le même bateau, c'est pas de le dire. Mmh. Et la grève, elle a fini comme ça, en claquant des mains, parce qu'il y a un gros armateur de gros bateaux qui est revenu de vacances. Lui, il a repris la mer et puis il a écrasé tout le monde. Et nous, on avait que nos yeux pour pleurer parce qu'on n'a rien eu du tout.
Vous êtes resté sur le bord du chemin.
On est resté sur le bord du chemin. Et du mois d'août au mois de décembre, le mois de décembre, on a vu sonner à la porte le syndic des gens de mer qui venait nous chercher le rôle. Le rôle, c'est ce que les marins, ils ont. C'est un peu les fascicules, ça va avec le rôle, ce que vous avez fait voir là.
Oui, tout à fait, ce qu'on a vu alors, avant le début de notre conversation.
Voilà, alors le rôle, ben, c'est ce qui reste à bord du bateau, pour savoir ce que le nom du propriétaire, puis le nom des marins au fur et à mesure qu'ils embarquent et qu'ils débarquent. Voilà. Et les fascicules, c'est ce qui rappelle ce qui est marqué sur le rôle. Et on nous a demandé le rôle la veille de Noël. Voilà. Alors, on savait que ben, c'était fini pour l'année 81. Alors, en 81, le 1er janvier, ben, mon mari, il a regardé sur le journal. Il a trouvé une place au Havre. Il a pris la voiture, il a été se présenter. Et il a été pris. Alors, du coup, ben, j'ai resté 2 mois au Tréport avec mes enfants. Et puis, en 81, ben, on a tous déménagé au Havre. Et il a changé de métier. Il a été dans les travaux public maritime. Voilà. Il était toujours dans la mer.
Quelques mots sur les travaux publics maritimes.
Ah, les travaux publics, c'est de planter des pontons, des gros bazars, là. Et il a été travaillé à la centrale nucléaire de Flamanville. Il était, il y a un genre de petit port dans les centrales. Ouais. Et à la sortie de ça, il allait chercher les plongeurs.
Et d'accord.
Il a même été contaminé par le nucléaire. Il a été dans un cercueil pendant 2 jours. Et ils ont toujours dit qu'il n'avait rien, mais je me suis toujours demandé s'il n'avait pas...
S'il n'y avait pas eu des conséquences.
Des conséquences,
On avait présence.
Qu'on n'avait pas su. Bon, maintenant, il est trop tard, mais c'est resté comme ça. Voilà. Et à la suite de ça, on a... Mon frère, il était... Bernard, il avait fait rentrer mon frère sur les bacs... comment qu'on dit, les bacs qui traversent la Seine, les bacs... c'est pas fluvial, c'est maritime. C'est des bacs qui font traverser les voitures et les gens pour aller travailler d'une rive à l'autre.
Ils remplacent les ponts quand il n'y en a pas.
Voilà. Et comment... Mon frère a vu qu'ils embauchaient. Il a donc dit à mon mari d'envoyer une lettre pour arrêter le machin nucléaire et reprendre une vie normale. Tout au moins revenir à la maison, normalement. Et puis, il a été pris. Alors donc, il a quitté les travaux publics, les travaux publics maritimes. Et il a travaillé au bac. Avant, ça faisait partie du port autonome de Rouen. Alors, c'était toujours maritime.
Toujours en liaison avec la mer.
Voilà. Et il a fini sa carrière sur les bacs en 1989. Quand il a tombé malade. Il a fait un infarctus, ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Et après, quand il a voulu reprendre son travail, la marine elle l'a refusé. Parce qu'il n'était plus capable de prendre les commandes d'un bateau, vu l'état de santé qu'il avait. Voilà. Alors, ben, il a été mis en retraite. Mais il lui manquait quand même 2-3 années de navigation. Malgré tout ce qu'il avait travaillé, il lui manque quand même facilement 4 ans de navigation.
Tu l'entends, elle monte, elle descend. Elle change d'humeur avec le vent. Gonfle son vent à la lune apparente pour poser son écume sur les terres qu'elle arpente. Tu l'entends la mer quand elle est en colère, pas du genre à faire les choses par derrière. Quand tu m'as vu sur ta pauvre galère, elle est là pour te rappeler. De la mer Caspienne à la mer Agée, en passant par la mer qui médite pour y arriver, je dédicace ces vers aux couleurs de nos mers qui font tout pour qu'un jour on ait les pieds sur terre. Tu l'entends, y a du bruit en dedans. Elle nourrit l'humanité de la vie et qu'elle répond. Qu'elle soit calme ou agitée, elle fait naître des enfants. Qui pourront enfanter si elle en fait des mamans. Une mère c'est cool, une mère
c'est chiant,
chiant.
Ça dépend des ovaires,
ça dépend du temps.
Mais si tu navigues sincère
avec ta mère, ma,
elle pourra peut-être te faire
un petit frère.
Tu l'entends pas la mer quand elle est calme, c'est qu'elle fait tout pour pas que tu rames,
pour pas que tu crèves, pour pas que tu te calmes. Ça pour une mère, c'est tout un drame.
Pendant ce temps-là,
votre, ah bah moi, j'ai travaillé, moi. Après d'avoir quitté pour élever mes enfants, j'ai été travailler à l'usine, c'est ce que j'ai dit, non?
Mm-hmm. Oui, oui, tout à fait.
Et bon, ben, comme ça n'a pas été que j'étais licenciée, ben, j'ai arrêté. Je me suis occupée du boisson, j'allais vendre poisson sulqué dans les rues. Mm-hmm. Avant, on passait avec notre petite voiture, on criait du pot poisson, mm-hmm. on comptait. Et le restant, bah, j'allais monter à Dieppe le matin, de bonne heure. Une fois que les marchands de poissons, ils étaient servis, parce que les petits marchands de poissons du coin, ils venaient servir à nos bateaux le matin pour avoir du poisson frais, pour faire leur tournée. Et après ça, selon ce qui restait, bah, je montais à Dieppe avec la voiture, parce que j'avais passé mon permis de conduire. Comme ça, j'allais porter le poisson moi-même, ça coûtait moins cher. On n'avait pas de frais, enfin moins de frais qu'avec le camion. Et le poisson, il attendait moins, il était mieux vendu. Et je revenais après, ben, j'avais mon ménage et tout à faire. Voilà.
La double journée.
Double journée. Mmh. Et après, ben, je suis tombée malade et puis ben, j'ai arrêté de travailler. Mais me suis toujours occupée du bateau quand même. Mmh. J'ai été opérée de mon dos et puis je me suis quand même occupée du bateau quand même.
Justement, s'occuper du bateau, le bateau, qu'est-il devenu ?
Ben, le bateau, on l'a vendu pour payer ce qu'on devait, forcément. Et à la suite de ça, Bernard, il gagnait bien sa vie là. Ça a été, on payait et puis c'était. Et puis moi, j'ai travaillé à la poissonnerie Vérel en arrivant au Havre. Une petite poissonnerie dans une belle rue au Havre. Mais la poissonnerie était petite, mais qui travaillait très bien. J'ai toujours resté dans le poisson. Et à la suite de ça, je me suis trouvée avec une hernie discale qui a mal tourné. Du coup, ben, je n'ai jamais retravaillé dans le poisson.
Vous êtes obligé
après,
d'arrêter.
J'ai été obligée d'arrêter. Mmh. Et médecin de la sécurité sociale m'a mis en invalidité. Après 3 ou 4 ans de longue maladie, quoi. Mais j'ai toujours fait ce que j'ai pu pour quand même continuer à les aider aussi bien... Je sais pas, moi, ce qu'il y avait à faire ou quoi. J'ai jamais arrêté. Mais c'était pas reconnu. Les femmes de marins ne sont pas reconnues d'avoir fait tout ça. Au moment de la retraite, ça compte pas tout ça.
Comme les femmes d'agriculteurs, il y a encore quelques années.
Quelques années.
Qui étaient
voilà.
En dehors du coup pour tout ce qui pouvait mais être moi, aide, retraite, etc.
J'ai parlé avec des femmes de marins pêcheurs qui habitaient dans le coin, là, il y a pas longtemps. Ils ont rigolé quand je leur ai dit vous vendez comme ça, puis vous intéressez pas, vous faites pas rien. Ils ont dit, mais non, et ça a toujours été comme ça. Mais maintenant qu'ils voient que ça a changé les choses, parce que maintenant les femmes, ils sont reconnues, ils sont mis comme pas armatrices, mais quand même, ils ont quelque chose. Ils ont déclaré quand même à la marine comme quoi ils travaillent sur le quai avec leur mari. Mais il n'y a plus beaucoup de femmes qui font ça n'importe comment. Bien souvent, ils travaillent ailleurs. Hein. Ils ont laissé les bateaux, le bateau il rentre, et puis le boisson il s'envoie directement à la coopérative, à la criée pour être vendu. Il n'y a plus que les petits bateaux comme nous qui tenaient à vendre sur le quai comme ça. Comme à Fécamp, il y a encore un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Hein.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond des blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ces blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, les oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Justement, est-ce que vous avez connu automatiquement les ports il y a une trentaine ou une quarantaine d'années? Ils étaient comment par rapport à ce qu'on connaît maintenant, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on n'a plus que de la pêche résiduelle, que quelques bateaux qui viennent?
Oui, les bateaux, on n'avait rien, on n'avait pas de glace, on n'avait rien, parce qu'on était des petits bateaux. Alors, il fallait porter le poisson vite pour qu'eux, ils le glaçaient, et puis pour le vendre à la criée. La criée, déjà, c'était pas comme ça. La criée, c'était les gens qui donnaient le prix du poisson qu'ils voulaient. Maintenant, c'est électronique, mais avant, il n'y avait pas tout ça. Hein. C'était à la tête du client, comme on appelait ça comme
tout
ça.
Tout la criée, d'ailleurs.
Tout la criée, oui. Ouais, voilà, c'est ça. La tête du client, il prenait ce qu'il voulait, et puis ben... Il y a des moments, mon mari se levait, il croyait avoir fait une belle pêche et puis une bonne machin. Quand il allait téléphoner au tabac pour savoir ce qu'il avait fait de sa marée, il revenait, il avait les bras qui pendaient parce que on a même vendu des soles au frôme considérés pour de la farine de poisson.
Oui, d'accord.
Et de la sole, c'est quand même un poisson.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Voilà.
Qui peut rapporter.
Normalement, c'était toujours bien vendu. Mais. Vous tombiez des fois que c'était engorgé et puis Il faisait pas attention à la qualité du poisson, tout était parti pareil.
La vie a beaucoup changé donc entre l'époque que vous nous avez décrite et puis maintenant. À votre avis, quels sont les éléments les plus positifs de la vie que l'on peut avoir maintenant par rapport à celle que vous avez connue ?
Oh ben, il n'y a pas de comparaison quand même, parce que maintenant il y a les appareils pour la navigation. Il y a quand même les radars, il y a les sondeurs, il y a le déco, il y a tout. Hein. Y a les... Maintenant, les hommes, ils sont quand même mieux. Ils savent où ils mettent leur chalut et puis ce qu'il y a en dessous. À cette époque-là, on n'avait rien du tout. Mon mari, il a fait mettre un sondeur avec confiance en Dieu. C'était déjà mieux, mais il avait toujours son compas. Parce que quand il y avait de la brume, il ne voyait rien du tout. C'était dans les années 70-72 qu'il a eu son premier sondeur pour voir où c'est qu'il mettait un peu son chalut, pour voir ce qu'il y avait dessous, c'est qu'à de le dire. C'était pas marqué, mais selon la profondeur, je sais pas comment il se débrouillait, mais enfin, il faisait pour le mieux. Et après, quelques années plus tard, je sais pas, 3 ou 4 ans après, on a fait mettre un radar pour être quand même un petit peu plus rassuré dans le brouillard. On n'avait pas encore tout ce qu'il y a maintenant, que tous les machins qu'il y a. Enfin, mais moi, je trouve que c'est mieux quand même pour... c'est la sécurité des gens, des marins déjà. Même pour le matériel et tout. Les treuils, tout ça, maintenant, c'est hydraulique. Il ne faut plus tirer dessus comme... ils avaient des petits treuils, mais tout était quand même... Ça passait par leurs mains. Hein. Il fallait qu'ils tirent sur la corde pour pouvoir entraîner les bovines. Hein.
Les villes maritimes fécantes, le Tréport, etc., ont toutes été marquées par les décès dans les familles.
Ah oui.
Car il y avait énormément de dangers pour la pêche, qu'elle soit côtière ou au long cours.
Ben, côtière, c'est-à-dire que c'était quand même, on a eu quand même moins de décès à la pêche côtière. C'est plutôt les bateaux qui allaient au large. C'était des bateaux qui rentraient tous les jours au Tréport quand même. Il y a une famille complète qui est disparue. Il y avait 5 frères. Ils en ont retrouvé 2, les autres ils n'ont jamais retrouvé. On n'a jamais su comment ça s'était produit. C'était en 1960. Ça s'appelait le Materdei. Tous les gars ils sont restés. Il n'y a qu'un qui a été sauvé, c'est parce qu'il était au régiment. C'était Claude Laurent. Il a vu ses frères mourir. Et lui, il aurait dû être avec, parce que c'était lui qui allait à la mer avec le bateau. Mais comme il était à l'armée...
Ça lui a permis de continuer.
Tous les ans, il allait quand même mettre des fleurs à ses frères à l'endroit où ils s'étaient perdus. À la fête de la mer, avant, c'était tous c'était tous les ans, on voyait Claude partir avec son bateau, mettre des fleurs sur la tombe des fleurs.
La mer m'a donné sa carte de visite pour me dire je t'invite. Voyager. J'ai de grands chevaux à la crinière blanche, et puis j'ai dans la manche tant de bateaux. J'ai du vent qui enivre ceux qui veulent me suivre dans l'illusion facile. La douceur des îles, terres inconnues, où les filles les moins sages vivent sur le rivage. Une carte du monde mystérieuse et ronde, comme un galet. Mais je t'ai trouvé étendu sur le sable, fragile et désirable. je t'ai désiré. Plus belle qu'un voyage, plus douce et plus sauvage, plus calme et plus cruelle que la mer qui m'appelle dans tes yeux ouverts. Le ciel était bleu tendre, tu m'as laissé te prendre.
Quelques mots justement sur les cimetières en mer, c'est-à-dire ces fleurs que l'on jette là où le marin a pu mourir lors d'un
naufrage ou voilà, quelque chose. Mais ben c'est, comment vous dire, c'est parce que c'est, pour nous il n'y a pas de tombe. Alors, c'est comme si on allait sur une tombe mettre des fleurs à nos défunts, quoi. C'est un peu ce que je fais pour mes ans, quoi.
Oui, donc une fois par an,
oui.
Vous partez en mer.
En mer, le jour de la fête de la mer, en principe. Mm-hmm. C'était pour, on met des fleurs pour tous les marins qui sont perdus en mer. C'est là qu'on fait, il y a la messe le matin et l'après-midi, il y a des sorties en mer pour mettre les fleurs où c'est qu'il y a eu des hommes de rester, quoi. Malheureusement, parce que trois quarts, ils n'ont pas retrouvé les corps. Tout est resté dans la mer.
Il y a des lycées maritimes qui forment la jeunesse. Ceux qui sont intéressés par ces métiers, quels conseils vous leur donneriez à ces jeunes pour rentrer dans ces professions-là, par rapport à ce que vous avez connu et puis par rapport à ce que votre mari a connu? Quelles qualités il faut en un mot pour, disons, réussir dans ces métiers?
Ben, il faut vraiment aimer la mer, déjà d'une. Et puis, ben, c'est pas toujours ce qu'on croit. Parce que tout le monde gagne de l'argent, tout le monde. Tout le monde fait voir sa réussite maintenant. Alors, ils connaissent plus ce que nous on a connu, c'est fini ça. Mais. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai pas voulu que mon deuxième garçon il aille à la mer. Il y en a un qui a été, mais pas le deuxième. Le deuxième, il travaille à l'usine et puis les tourneurs. Alors, c'est un métier, c'est un beau métier, mais il y a beaucoup de risques que les jeunes, je pense, qu'ils connaissent pas.
Oui, et puis beaucoup d'instabilité par rapport à l'avenir.
Il y a le temps, il y a quand même quand il y a mauvais temps comme là, on a des semaines complètes de mauvais temps. Les bateaux, ils restent à quai. S'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de paye. À moins que maintenant, ce serait changé. Mais enfin, chez nous, c'était comme ça. Quand on n'allait pas à la mer, il n'y avait pas de gain. Il fallait quand même payer les frais qui couraient et quand ça arrivait.
Oui, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, les aléas de la vie.
Les aléas de la vie, voilà, que les gens, ils ne savent pas. Hein. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, j'espère que s'ils aiment vraiment la mer et puis qu'ils veulent en faire leur métier, j'espère qu'ils réussiront. C'est tout le mal que je leur souhaite. Mais maintenant.
Sur les fêtes commémoratives qui sont menées chaque année dans les villes portuaires, que ce soit le Tréport, que ce soit Dieppe, que ce soit.
À Fécamp.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et nous dire un petit peu qu'est-ce qui est proposé, disons, souvent aux touristes, mais surtout pour les gens qui vivent sur place et qui essaient de se rappeler les moments particulièrement difficiles que la population a pu vivre?
C'est-à-dire que quand il y a un décès d'un marin dans n'importe quel port, c'est toute la corporation qui est mise à contribution. Parce qu'on n'est pas sans connaître le monsieur qui vient de disparaître, ou le fils, ou n'importe qui. C'est des gens qu'on a côtoyés. Bon, par là, maintenant, moi, je connais... À Fécamp, je connais pas grand monde. Mais ce qu'ils font, là, Saint-Pierre-des-Marins, je trouve que c'est vraiment un bel hommage à tous ceux qui sont partis, qui n'ont jamais revenu, parce que c'était un métier dur, la morue, à cette époque-là. Nous, on n'a pas connu tout ça, mais à en parler avec tout le monde.
Vous pouvez nous en dire quelques mots, justement, de ces campagnes au long cours, si j'ose dire, vers Terre-Neuve, par exemple?
D'après ce que j'ai pu lire et puis entendre, ils partaient 3 mois complets, Après la Saint-Pierre, les marins, ils s'en allaient pour 3 ou 4 mois. Ils rentraient que quand le bateau, il était plein à craquer, mais ils allaient dans le nord, à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout ça, où il faisait très très froid. Et ben, il y en a pas beaucoup qui revenaient, hein, parce que c'était soit par le froid, ou ils tombaient, ou ils glissaient, et puis... Il y a des femmes qui attendaient leur mari et que personne n'en revenait.
Il y a d'ailleurs un très beau tableau aux pêcheries qui montre le matin le marin qui vient annoncer à la femme qui tient d'ailleurs ses enfants.
Ses enfants.
Sur le pas de la porte, il vient annoncer la mort du mari avec toute la troupe qui est derrière. Et qui.
Quand on voit ça arriver à sa porte, ça doit faire un drôle d'effet.
C'est sûr.
Non, mais même le tableau que vous dites, là, il est au Tréport dans la salle des mariages. Exactement le même.
Oui, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois de suite cette scène représentée, parce que bon, ça montre bien le côté âpre et terrible de cette
vie. Bah, quand on apprend un naufrage d'un bateau où rien qu'il y a la perte d'un homme, ça laisse froid dans le dos quand même. Ça fait mal, parce que c'est quand même notre chair, notre sang, quand même.
Bien sûr.
Voilà. Ben moi, j'ai toujours été élevée à la mer et puis avec la marine. Si je vois pas la mer, ça va pas.
J'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon, la vague est bien bon, le vent puissait haut, Santiago. Si Dieu veut que je croie demain, nous irons jusqu'à San Francisco.
Besoin d'avoir le vent marin, besoin d'avoir les paysages également, qui sont en effet très beaux, mais souvent qui peuvent faire peur quand il y a des tempêtes, quand la mer est démontée.
Il y a surtout des gens qui sont trop imprudents, parce qu'avec les tempêtes qu'il y a en ce moment, voir les gens aller tout près des galets comme ils vont, c'est de l'inconscience complète. On voit des petits enfants là, qui sont tout près, la lame elle arrive... Le gamin, il peut être pris par la lame et puis on peut rien faire. Mais les gens, ils y pensent pas, ça. Ça, c'est malheureux parce que je vois, à Fécamp, ils ferment tout, les escalades et tout. la mer a le monde par-dessus le fer en ce moment. Mm-hmm. Et ben les gens, ils y vont quand même.
Mm. Et passent au-delà des barrières sans aucun problème.
Voilà. C'est vraiment de l'imprudence. Mais c'est tout partout pareil. C'est pas qu'ici. Hein. Ça, c'est... Il faudrait quand même que les gens ils prennent conscience que la mer, elle est rude.
Oui, mais je crois qu'ils n'en ont pas conscience parce qu'ils ne connaissent pas.
Bah oui, voilà.
Ils n'ont pas la connaissance que vous avez, nous, par exemple, bah oui, ou que vous avez sur tous les dangers que peut
Ça, c'est sûr que
ce genre de promenade.
Nous, ça a peut-être été un peu trop, et puis maintenant, on ne sait pas assez. Quoi. Mais quand on sait ce qui se passe, après, on fait attention quand même. Hein.
Dans toute cette vie que vous venez de nous décrire assez rapidement, des moments de regret ou pas ?
Non. Ben, regret, non, parce qu'on a été élevés comme ça. Tout ce qui nous est arrivé avec les bateaux, la pêche et tout, ben, on a fait pour réussir. Bon, ben, on n'a pas eu de chance, on n'a pas réussi, mais on a retravaillé autrement, toujours avec la mer, mais... Non, pas du tout de regret, au contraire, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais je trouve qu'on a eu une belle vie quand même, on s'en est sorti quand même.
Et vous avez assuré ?
Et j'ai assuré, enfin le plus que j'ai pu, mais malheureusement, le pire c'est mon gars.
Là c'est un autre chapitre et on n'en parlera pas dans l'émission.
Non.
Car c'est du domaine de l'intime et, et du très grave.
Ouais.
Et du très grave.
Il n'est pas mort à la mer, mais il est à la mer.
C'est sûr.
Et Bernard avec maintenant, on peut le dire. Voilà.
Je vais vous remercier pour votre franchise et puis la manière très pédagogique que vous avez mis en avant pendant cette demi-heure passée ensemble. Et je pense que les auditeurs qui vont écouter ce témoignage vont être à la fois émus et en même temps vont connaître... un monde qu'ils ne connaissent absolument pas, puisque c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la pêche maritime telle que vous l'avez connue, elle n'a pas disparu. Elle existe encore, mais...
La pêche côtière, il n'y en a plus beaucoup.
Elle est quand même, la pêche côtière, très, très limitée. Mmh. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
Il faut que tout le monde mange ici-bas.
C'était Clé en main sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, qui nous rapproche.
C'est-y pas vrai, les terres ne va. Nous autres, si l'on part sur le bateau, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. C'est pour faire manger nos petits, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Des fois, l'un de nous tombe dans la mer, c'est-y pas vrai. C'est-y pas vrai, comme dans une grande gueule affamée, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Tant pis pour lui le pauvre garçon, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. Faut qu'il mange aussi les poissons, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Les seuses qui restent après ça, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. Se mettre à pêcher ces poissons-là, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Se mettre à pêcher avec ardeur, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. C'est pour engraisser l'armateur, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Mange ici-bas, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. Y'a que nos petits qui ne mangent pas, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Puisqu'on ne gagne pas sur le bateau, c'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. De quoi faire manger nos petits, c'est-y pas vrai, les terres ne va. Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? C'est-y pas vrai, c'est-y pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? C'est-y pas vrai, les terres.